Voilà, et bien bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Ce matin, j'aimerais vous proposer deux passages de la Bible, parole de Dieu. Le premier dans le psaume 25, le deuxième sera dans le Nouveau Testament. Donc voilà ce que le psalmiste écrit au psaume 25 et au verset 15. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Oh, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte, je cherche en toi mon sûr refuge. Et le deuxième texte, dans Hébreux, bien connu aussi, Hébreux chapitre 12, où il est question de notre environnement, y compris invisible, car les témoins sont autour de nous, ceux qui témoignent du Seigneur, mais ils sont aussi, pour certains déjà, dans l'au-delà, dans la présence de Dieu. Alors c'est pourquoi nous aussi qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Voilà donc ces deux textes de la Bible. Et tu peux réafficher le verset 15 du psaume 25. Nous nous réunissons le dimanche matin pour tourner nos yeux vers Dieu. Et je me suis posé la question. Et en dehors du dimanche matin, vers où tournons-nous nos yeux? Alors ce matin, je suis émerveillé en venant à notre rencontre. Et chaque dimanche, je me pose la même question. Et peut-être vous posez-vous la même question que moi. Laquelle? Vous ne posez pas de questions dimanche matin?
Pourquoi nous venons ici peut-être? Je ne sais pas moi.
Qui est le moins doué?
Ah, moi je suis plus terre à terre que vous tous, je vous trouve très spirituel.
Qu'est-ce que le Seigneur me dira aujourd'hui?
Qui allons-nous adorer? Qu'est-ce que le Seigneur nous dira aujourd'hui? Moi je me pose une question toute simple. Qui vais-je avoir à mes côtés? Qui vais-je rencontrer? Est-ce que vous serez bien là ce matin? Pour moi, c'est toujours un miracle de vous voir. Et j'espère que c'est pour vous aussi un miracle de me voir, sauf si vous n'avez pas envie de me voir. Mais ça, c'est une autre question. Mais vous me direz, c'est normal d'être là le dimanche matin. Réfléchissons bien. Est-ce aussi normal que cela? On peut être tenté de rester chez soi. Et le clair est ouvert le dimanche matin. On peut aller faire les courses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire pendant toute la semaine. Et l'ami qui nous a appelé hier soir à 23h30 parce qu'il avait un souci, eh bien pourquoi pas aller le voir le dimanche matin? Voyez, c'est pas tellement normal de venir à ce rendez-vous privilégié du dimanche matin ici au 20 bis de la rue du quai des meules. C'est par là que passaient les grosses meules en pierre pour être chargées sur les péniches et être livrées dans le monde entier pour aller broyer le grain et en faire de la farine. C'est par là que ça défilait jusqu'à la Marne. Oui, c'est pas évident d'être là le dimanche matin. Je lisais hier un article qui s'appelait « Déconstruire ». Et un ami, se disant chrétien, disait qu'il faut déconstruire les habitudes. L'habitude de se retrouver dans une église. Alors lui pensait à l'église à clocher, mais nous pensons à une salle où on se rencontre, comme on dit. Dans la Bible, il y avait le temps, la tente de la rencontre où Dieu disait « Venez vous rencontrer en ma présence ». Oui, le dimanche matin, on peut perdre facilement l'habitude de se rencontrer. Il faut déconstruire. Ce n'est plus moderne de se rencontrer. Ce n'est plus moderne de se retrouver. C'est tellement plus facile dans son fauteuil ou dans son canapé d'allumer la télé ou la tablette, l'ordinateur et de trouver un culte, comme on dit. Un culte, c'est quoi un culte ? Un culte, c'est une réunion chez les protestants. Mais dans la Bible, un culte, c'est ce qu'on donne à une divinité. Que ce soit le Dieu trois fois saint, mais le plus souvent que ce soit une idole. Et beaucoup de chrétiens ont leur idole à domicile. Et ils ont le choix. On peut choisir des bons programmes chrétiens. Avoir une belle réunion le dimanche matin, tout en restant en pyjama, pas vrai? Alors pourquoi faire l'effort de venir ici? Pour moi, c'est un miracle de vous voir ici ce matin. Et je vous avoue que ça fait du bien de se voir. Car si nous sommes ensemble, ce n'est pas pour nous regarder les uns les autres. Ce n'est pas pour contempler notre habillement. Ce n'est pas pour contempler la joie des uns et des autres. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont toujours bonne mine, mais juste pendant 2 heures le dimanche matin. Le restant de la semaine, c'est affreux. Ils sont insupportables au boulot. Insupportables quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Insupportables quand ils sont dans une salle d'attente et qu'il faut attendre plus que 2 heures. Oui, nous avons parfois une double vie. Rayonnant le dimanche matin et le reste du temps, très très pénible. Mais finalement, notre vie, c'est quoi? Ce matin, vous êtes là, mais ce n'est pas seulement votre corps qui est là. C'est votre personnalité. Une personnalité psychologique, relationnel, spirituel, une vraie personnalité, et chacun a sa personnalité. Notre rassemblement est bien plus qu'une simple réunion de personnes qui sont assises sur des chaises. Notre réunion est plus que le résultat d'une habitude prise. On va à la rencontre du dimanche matin, on ne va pas les louper. Le psalmiste nous dit « Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel ». Pas seulement le jour du sabbat, qui est pour nous le dimanche matin. « Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel ». Et ce que j'admire chez le psalmiste, c'est que les yeux tournés vers l'Éternel, Nous aimons faire cela, hein? Tourner vers, les yeux vers Dieu, les détourner de ce que nous sommes, les détourner des réalités quotidiennes. Il y a des gens qui vont à l'église le dimanche uniquement pour fuir ce qu'ils ont vécu toute la semaine et qui était difficile. Et quand on leur demande le dimanche matin, est-ce que ça va ? Bien sûr que ça va ! Certains ajoutent, par la grâce de Dieu. Mais rares sont les personnes dans nos lieux de rencontre qui vous diront, ben non, aujourd'hui c'est dur, c'est dur. Rares sont les personnes qui vous diront la vérité. Est-ce que tu as eu une bonne semaine, Celso ? Oui, merci. Je n'en saurais pas plus. Je n'en saurais pas plus. Le psalmiste est un homme vrai. Il nous fait des aveux et nous allons le suivre un petit peu. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel. Voilà ce que nous devons apprendre ce matin. Le retenir et le pratiquer 24 heures sur 24. Car le psalmiste dit aussi, même la nuit sur sa couche, il médite les bienfaits de son Dieu. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'on ne réalise plus sa vie quotidienne. C'est lui, celui vers qui je tourne les yeux, qui dégage mes pieds, pris au filet. Vous n'êtes pas des braconniers, mais vous comprenez cette expression. Un filet tendu, c'était pour attraper un animal. C'était pour le capturer, pour se l'approprier. Et quand les pieds étaient pris au filet, on avait beau se débattre, on était bel et bien pris. Et c'est souvent notre cas. Je dirais même que c'est fondamentalement notre cas. Nos pieds sont pris dans un filet. Tu peux aller au verset suivant. Je regarde Dieu, mais je veux qu'il me regarde. Bien sûr que Dieu nous regarde. Il nous connaît parfaitement. Il sait ce que nous vivons chaque jour, à chaque heure. Mais si on demande à Dieu son regard, c'est parce qu'on a besoin de grâce. On a besoin de secours. Demandez voir au psalmiste comment il va. Il ne va pas vous dire « merci, très bien ». Il va vous dire, « Ah, je suis seul, je suis malheureux. » Est-ce votre cas, ce matin, ou parfois, de temps à autre, pas trop souvent? Tu peux aller au texte suivant. Le psalmiste, en regardant Dieu, constate la réalité de sa situation. « Mon cœur est dans l'angoisse !» Ça vous arrive d'être angoissé? Mes yeux sont tournés vers le Seigneur. Délivre-moi de mes tourments. Est-ce mauvais de reconnaître que notre vie n'est pas parfaite? Est-ce mauvais de reconnaître qu'on a des angoisses? Est-ce mauvais de reconnaître qu'on est seul? Qu'on aimerait être entouré par d'autres? Mais on reste livré à soi-même, malheureux. Oui, le psalmiste regarde à Dieu. Mais en regardant à Dieu, il sait combien il reste humain. Il sait combien sa propre histoire, sa petite histoire est compliquée. Reconnaître sa situation. Lever les yeux vers Dieu, c'est s'ouvrir à une action que Dieu ne manquera pas de réaliser. Parce que Dieu veut prendre notre petite histoire à chacun, la vraie, celle que nous vivons quotidiennement. Et il veut la transformer en grande histoire, c'est-à-dire il veut y rajouter son propre grain de sel. Il veut transformer notre existence qui ressemble à celle du psalmiste, une existence angoissée, petite histoire qui est la nôtre. Il veut la transformer en une grande histoire qui est la sienne. Une histoire où on est délivré de l'angoisse. Une histoire où on n'est plus seul. Une histoire où, justement, les choses se passent autrement. Tout ça, c'est l'histoire d'un seul regard. Vers qui vont nos regards ce matin? Peut-être êtes-vous assis là en pensant aux soucis de demain. Ou alors à celui d'avant-hier que vous n'avez pas réussi à résoudre. Oui, on est parfois assis dans une salle. Le corps est là, mais l'esprit, il est ailleurs. Il est en train de se battre avec l'angoisse. Il est en train de se battre avec la solitude, avec une situation malheureuse. Et on vient le dimanche matin à la rencontre et on veut regarder Dieu, mais où est Dieu? Il n'y a que des murs blancs partout et les soucis personnels qui sont là, assis dans notre corps. Mes yeux sont constamment fixés vers l'Éternel. Gardons les regards sur Jésus, dit le Nouveau Testament. Vers qui regardons-nous? Regardez ces soucis. Ne les solutionne pas. Ne pas les regarder, faire comme si, ça ne règle rien non plus. Tellement de gens ne veulent pas avouer leur situation réelle. Même des chrétiens depuis longue date traînent des boulets, ils ne veulent pas le reconnaître. Non, moi je suis tout bien, tout va bien. Tous les dimanches, je vais à la réunion. Je rencontre les autres. Bon, personne ne me connaît. Ils ne savent pas ce que je vis. Je ne leur dis pas. C'est secret. C'est moi tout seul. Mais je suis accablé. Venons-nous ici pour fuir la réalité de notre vie ou pour solutionner chaque détail de notre vie? On peut se cacher devant les autres humains, devant les frères et sœurs, mais pas devant Dieu. Dieu nous regarde. Est-ce que nous savons regarder Dieu? Mes yeux sont constamment fixés sur l'Éternel. Oui, ma vie réelle mérite son intervention. Sommes-nous prêts à cela? Voulons-nous que Dieu prennent nos fardeaux? Vers qui regardons-nous quand c'est difficile, quand les problèmes s'accumulent, quand nous subissons des pertes, quand nous traînons des souffrances, quand notre vie semble n'être qu'une série d'échecs, d'absurdités, et quand la tentation est immense? Ne fuyons pas la réalité de notre vie. Affrontons-la. Et il n'y a qu'une manière de l'affronter, c'est de regarder à Dieu. Car celui qui se décourage et qui cache sa déception devient amer. Il s'isole de plus en plus. Il y a des personnes qui ont l'impression de subir des injustices. Même le psalmiste disait: des ennemis, j'en ai plein partout. Ils sont pleins de haine, d'une haine violente. Oui, il y a des personnes qui voient l'injustice partout, qui voient l'acharnement du sort sur eux, et au lieu de regarder à Dieu, ils se mettent en colère contre les autres qui vont mieux qu'eux. Ils les jalousent. Il les envie. Et quand on se jalouse et on envie les autres, on s'isole, on prend ses distances. Et on finit par accuser Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Rien ne change pour moi. Si tu étais là, ce serait tellement différent. Mais tu n'es pas là. Ce triste constat, tellement de gens le font. Mais ils oublient. Ils oublient de lever les regards. Après avoir regardé leur situation tellement malheureuse, ils oublient ce regard d'espoir. Seigneur, délivre-moi. C'est mes pieds qui sont pris dans le filet. Ma tête est encore hors de l'eau. Mais voilà, je suis capturé. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à surmonter le mal. Mes yeux, dit le psalmiste, sont fixés sur l'Éternel. Et le Nouveau Testament dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi sur Jésus? Pas pour masquer la réalité. Quand on a regardé sa misère et qu'on regarde à Jésus, on voit un sauveur qui a porté notre misère et qui nous demande une chose simple. Débarrassez-vous. Ça veut dire quoi, se débarrasser?
Abandonner,
ça veut dire partir à la déchetterie et jeter. Pas ranger son petit souci dans la pièce secrète de la vie pour le reprendre à la première occasion. Moi, j'aime pas jeter parce que tout me sert. On avait besoin d'un podium qui prenne moins de place ce matin. J'ai trouvé un truc où on mettait les fleurs. Et ça m'embêtait de le jeter. Alors il est resté pendant des années. Et voilà, c'est devenu hier après-midi, rapidement, un petit podium. J'aime pas jeter. Et pourtant, il faut jeter. Notamment ses soucis. Notamment sa vie malheureuse. Il faut mettre tout cela à la déchetterie. Jésus n'est pas une déchetterie. Il est un sauveur. Il est celui qui vient pour me dire, jette ton fardeau. Jette. Tu ne sais pas comment faire? Eh bien, tu le jettes sur moi. Moi, je sais quoi en faire. Jésus a porté notre péché. Il l'a traîné à la croix où on l'a condamné en le traitant de meurtrier. Il était innocent. Le fait de prendre sur lui notre péché, ça a fait de lui, au regard du monde, un meurtrier, un coupable, un homme indigne, un homme qu'il fallait évacuer. Jésus a porté notre péché et c'est pour cela qu'il nous dit aujourd'hui « Débarrassez-vous !» Qui ce matin est prêt à ranger ses soucis dans sa petite armoire secrète? Demain matin, lundi, on s'en occupera. On revivra la même médiocrité. Et on recommence mardi et on continue mercredi. Et jeudi, on sera encore dans la situation pénible. Et vendredi aussi. Le samedi, on vous laisse reposer un peu, mais manque de peau, il faut s'occuper de tous ces soucis. Mais le dimanche matin, ah miracle, on oublie tout, on ferme les yeux, on fait l'autruche, mais rien n'est réglé. Uniquement si nous regardons à l'Éternel, uniquement si nous regardons à notre Dieu, uniquement si nous regardons Jésus qui a porté toute notre médiocrité, uniquement par ses regards, nous entendons la voix de Jésus qui nous dit « Débarrasse, jette, ne t'occupe plus de ce qui fait ton malheur. Jette, regarde-moi, dit le psalmiste, et fais-moi grâce. Délivre-moi, pardonne-moi tous mes péchés. Protège-moi, garde-moi. » Oui, pour le psalmiste, la solution, c'est de regarder à Dieu. L'apôtre Paul a écrit un beau texte qui se trouve dans Éphésiens 3, au verset 20. Je vous le cite. L'apôtre dit à celui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église en Jésus-Christ. Celui par la puissance duquel les choses se réalisent. Dieu peut faire infiniment plus que nos soucis. Dieu peut faire infiniment plus que nos désespoirs et que nos échecs. Si nous regardons à lui et acceptons qu'il se charge de nous dégager de ce filet du péché. Le péché est toujours là. Il nous environne de toutes parts, est-il écrit. Mais ce n'est pas parce que le péché nous environne que nous devons l'apprivoiser et le laisser gâcher notre vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun a ses tentations à lui. Mais aucune tentation n'est au-delà de nos forces. Si nous laissons la puissance de Jésus agir en nous, il ne nous demande pas de faire à sa place ce qu'il a déjà fait beaucoup mieux que nous. Jésus ne nous dit pas « Occupez-vous de votre péché, réglez-le, payez-en le prix. » Non. Jésus dit, j'ai tout fait. J'ai porté votre fardeau à la croix. Aujourd'hui, je déclare que je vous libère du filet. Le voulez-vous? Aujourd'hui, je vous tire les pieds de ce qui vous lie encore et qui vous empêche de vivre d'une manière victorieuse. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous est si facilement, qui est si facilement à nos côtés. Et courons. Pour moi, c'est significatif. J'ai jamais vu un athlète s'entraîner et au moment où il faut donner le maximum de soi, aller se coucher pour se reposer. C'est ce que nous faisons trop souvent. Nous croyons que Jésus peut changer notre vie. Nous croyons que Jésus nous délivre de toute entrave. Nous savons que nous devons rejeter le péché et toutes nos faiblesses. Mais nous oublions d'être conséquents. Nous oublions de courir. Ne peut courir que celui qui a des pieds dégagés du filet. Ne peut courir que celui qui décide de s'aventurer dans cette épreuve compliquée, parce qu'il y a des concurrents, on n'est pas seul. Qui veut aujourd'hui aller jusqu'au bout, accepter de courir avec Jésus, accepter de laisser Jésus le porter dans la course, parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Alors je résume et je termine pour ce matin. Jésus a tout fait sur la croix pour que nous soyons libérés, que nous soyons des adorateurs du Dieu Saint ou que nous soyons encore des ignorants. Nous pouvons venir à Jésus, lui dire « Oui, tu as tout fait pour moi, alors je me livre à toi. Dégage mes pieds du filet. » Deuxièmement, parce que tu dégages mes pieds du filet, parce que tu as tout accompli sur la croix, j'accepte de courir. Donc je me lève et les regards sur toi, je cours. Vous savez, Jésus, un jour, il avait un boiteux. Il lui a dit, lève-toi et marche. Cet homme aurait pu dire, attends, j'ai pas marché de ma vie. Tu vois bien, je suis grave à terre. Tu me demandes une chose impossible. À moi, nous sommes parfois comme le boiteux. Jésus nous dit, mais lève-toi et cours. Ah non. Nous n'obéissons pas. Nous ne sommes pas réalistes. Nous ne croyons pas que Jésus a balayé notre péché et ne nous oblige pas à continuer à lui céder. Nous sommes environnés du péché. Débarrassons-nous, rejetons-le. Et la meilleure façon, c'est de courir à la suite de Jésus. Donc, courons. Laissons le Seigneur faire son œuvre en nous. Allons jusqu'au bout. Notre regard individuel, comme notre regard collectif, parce que c'est aussi en équipe qu'on court mieux. Si nous sommes réunis ensemble, c'est aussi pour nous motiver à aller de l'avant. Et bien que nous sachions courir, parce que Jésus est devant nous. Mais soyons sincères, soyons vrais, laissons à Jésus la gouvernance de notre vie. Ne lui opposons pas sans arrêt nos impossibilités. Laissons Jésus courir devant nous et gardons les yeux fixés sur lui. C'est quelque chose de pratique. Ça ne s'arrête pas maintenant. Toute la journée. Demain matin. Il ne s'agit pas demain matin de regarder ses soucis, non. Regardons. En connaissance de nos soucis, regardons à Dieu. C'est lui qui nous délivrera. Rejetons et avançons. Bien sûr, le chrétien a des souffrances dans la vie. C'est comme une école, c'est comme un exercice pour lui apprendre à faire confiance au Seigneur Jésus. Mais en dehors de ses souffrances, le péché ne doit pas nous lier. Vivons en personne dégagée. Nous l'entendrons encore cet après-midi et je m'en réjouis lorsque deux sœurs nous parleront de ce que le Seigneur a aussi fait pour eux et elles témoigneront de leur désir de courir avec le Seigneur. Je me réjouis aussi pour cet après-midi. Nous ne sommes qu'à la mi-temps là. Nous continuons à 15h30. Prions les uns pour les autres. Les regards.